Cette semaine à la vie en BD, on va à la rencontre du petit frère de Jean-Louis Tripp. Bon mardi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La vie en BD. Raymond Poirier avec vous. Et avec vous, j'ai envie de dire un peu en mode rattrapage, mais un rattrapage incontournable qui était au haut de ma liste depuis la sortie de l'album. Et l'album est arrivé en été, puis ensuite la frénésie de l'automne nous a emportés. Mais je pense que c'était incontournable et je ne pouvais pas physiquement terminer l'année sans parler de ce titre-là. L'album s'appelle Le Petit Frère, c'est de Jean-Louis Tripp. C'est chez Casterman, Jean-Louis Tripp, qui nous avait offert ces dernières années des ouvrages autobiographiques, en fait, avec Extase, dont on vous avait parlé, et qui nous revient avec de l'autobiographique avec ce Petit Frère. Et il est avec nous pour échanger autour de cet album. Jean-Louis Tripp, bonjour.
Bonjour.
Alors, d'entrée de jeu, je le disais, en fait, la dernière fois où on s'était parlé, c'était autour de la série autobiographique Extase. Et on se disait qu'avec cette démarche-là, on allait vers l'intime, vers une mise à nu qui était à la fois littéraire et figurative, puisqu'on faisait votre autobiographie sexuelle, donc de la découverte jusqu'à l'appropriation, si on peut dire. Et j'ai l'impression qu'en regard de l'émotion, en regard de ce qu'on retrouve dans Le Petit Frère, en regard de la blessure qui a été faite et de l'impact que ça a eu aussi, qu'on plonge peut-être dans quelque chose qui est encore plus intime ou qu'on va ailleurs aussi dans cette démarche où tu nous ouvres l'intimité, ton intimité, puis plus largement celle de ta famille avec Le Petit Frère.
Oui, en fait je continue simplement. C'est pour moi Le Petit Frère... Et Extase, ça fait partie d'un ensemble que je continue à développer dans mon prochain livre, là, celui que je suis en train de commencer en ce moment, qui lui sera sur mon enfance. Et donc, en fait, ce que j'essaye de faire, mais ce qui est rigolo, c'est que des fois, on comprend ce qu'on fait au bout d'un moment. On ne le sait pas exactement en commençant. Et puis après, quand on commence à être assez avancé là-dedans, on se dit « Ah ouais, mais en fait… En réalité, c'est de ça que je suis en train de parler. Et je pense que ce que je fais avec ce travail autobiographique, c'est de questionner par différentes entrées, différents aspects, ce qui nous construit. De quoi est fait un homme, dans mon cas, enfin, un être humain, de quoi il est, qu'il est. Hein, voilà. Et donc, évidemment, il y a des espèces de grands piliers comme ça de cette construction. La sexualité en est un, évidemment. Donc, j'ai commencé à explorer avec Extase, c'est pas fini. Le deuil, on sera tous à un moment donné confrontés au deuil, hein, c'est à peu près inévitable dans une vie normale d'être humain. Le deuil auquel moi j'étais confronté, il est un peu particulier, mais on est assez nombreux, mine de rien. Je reçois énormément de messages de gens qui ont vécu des choses comparables, c'est-à-dire de vivre le deuil de quelqu'un qui n'aurait pas dû mourir. Pas un grand-père ou même un parent âgé qui a vécu sa vie. Là, c'est quelqu'un qui meurt très jeune. Mais on connaît aussi tous, de près ou de loin, quelqu'un qui a eu un accident, un cancer, une chose ou une autre. Moi, ça m'a touché de très près parce que c'était mon frère. Donc, voilà. Alors, évidemment, tout ça, ça parle de l'intime. Et mon prochain livre qui va être sur mon enfance, et sur où là, je questionne en quoi le fait d'avoir vécu mon enfance à la période où je l'ai vécu, c'est-à-dire pour moi, c'était les années 60, dans la région où je l'ai vécu et le pays où je l'ai vécu, pour moi, le sud de la France. Le sud de la France, c'est pas la même chose que le nord de la France, et c'est évidemment pas la même chose que le Québec, et ça serait même pas la même chose à Montréal ou à Québec ou au fin fond de la Abitibi. À chaque fois, ce sont des choses différentes. Et dans quelle famille on passe son enfance aussi. Voilà. Donc, cette conjonction de choses, en quoi ça contribué à construire l'homme que je suis devenu aujourd'hui.
Oui, puis c'est des éléments, effectivement, parce que tu le mentionnes, puis je repense à Extase, je pense que c'est carrément le premier tome où à un moment donné, tu réalises que ben, ton père était ci, ça, donc ça te permettait de cet élément-là, parce qu'il y avait une réalité familiale qui avait permis des éléments. Et à un moment donné, dans le même livre, quand tu ouvrais sur les 18 ans, ben, on sentait que il y avait un événement qui s'était passé, qui avait eu son importance à ce moment-là, qui avait amené... Qui avait été un pilier, dans le fond, dans le drame. Donc, et pour le contexte, en fait, pour ceux qui n'ont pas lu l'album et qui vont le lire après l'entrevue, évidemment, le petit frère, Jean-Louis Tripp, raconte donc la mort et surtout le deuil de son frère Gilles, qui a été fauché par une automobile à 11 ans, alors que lui en avait 18 ans. Et donc là, on se retrouve 46 ans plus tard avec l'expérience, dans le fond, du premier Extase, j'imagine, et c'est un peu à ce moment-là que la nécessité peut-être ou l'intérêt peut-être de cet album-là a commencé à germer, ou peut-être un peu avant, ou peut-être par la suite.
Non, même pas en réalité, puisque franchement, j'y avais jamais pensé. Même quand j'ai fait Extase, le tome 1, dans lequel j'ai effectivement mentionné, on peut pas dire que j'ai développé, mais quand je suis arrivé, j'avais pas prévu de faire ça dans Extase. Mais quand je suis arrivé à l'âge de 18 ans, que j'avais donc, je racontais mes 18 ans, la période où j'avais 18 ans, et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, je suis obligé de parler de ça, de ne pas raconter ma vie sans mentionner qu'à 18 ans, j'ai vécu ça. J'ai perdu mon frère, parce que ça ne va pas, quoi, il manque un truc. Donc, je l'ai mentionné, mais voilà. Alors, mais même à ce moment-là, je n'avais pas pensé faire un bouquin spécifiquement là-dessus. C'est arrivé plus tard, c'est arrivé en fait à l'automne 2019. À ce moment-là, au mois de mai 2019, j'ai une amie qui habite à Montréal, qui est française, mais qui habite à Montréal, qui a perdu son frère, qui avait 29 ans. Crise d'épilepsie. Et bon, voilà, il est décédé. Et puis, pendant l'été, donc, j'étais en France, cet été 2019, et il y a eu un fait divers en France qui ressemblait assez étrangement à celui, de la mort de mon frère, c'est-à-dire un chauffard qui percute deux enfants dans ce cas-là, qui en tue un, qui blesse l'autre et qui prend la fuite. Voilà. Et il a une passagère à bord. Et c'est en Bretagne. Alors tout ça, c'est comme dans le cas de mon frère. Et donc, la conjonction de ces deux choses, parce que moi, j'ai une théorie qui est assez marrant, parce que le fait d'avoir fait ce bouquin vient en quelque sorte contredire la théorie, la théorie qui est la mienne. Mais ma théorie, c'est qu'en fait, les gens qui n'ont pas vécu un deuil comme ça ne peuvent pas savoir ce que c'est. C'est-à-dire, c'est une expérience. C'est exactement comme moi, je ne saurais, ni vous ni moi, mon cher Raymond, on ne saura pas ce que c'est que d'accoucher. Bon, voilà, c'est une expérience. On peut s'imaginer, on peut se mettre à la place d'eux, voilà. Mais voilà, si on n'a pas sauté en parachute, on ne sait pas ce que c'est que de sauter en parachute. Donc, pour moi, c'est ça le truc. Et donc, quand malheureusement un deuil comme ça arrive dans mon entourage, j'ai toujours tendance à dire à la personne que je connais, dire « écoute, moi, je sais ce que c'est. Donc, si tu as besoin d'en parler, là, c'est une expérience que j'ai. » Bon, donc, voilà. Et en fait, là où est la contradiction, c'est que je pense que finalement, j'ai fait ce livre pour essayer de partager cette expérience-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai...
Oui, en fait, ça amène en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme deux éléments avec le petit frère. Dans le fond, il y a l'élément plus la narration elle-même, bon, la recherche, on en parlera, mais je pense que tu ouvres la porte sur l'idée de rendre l'émotion implique des procédés, implique des approches, implique des choix sur la forme. Et j'ai l'impression que d'un côté, tu savais quand même où tu allais t'en aller. Je veux dire, c'est quelque chose que tu as vécu. T'as questionné, tu as été chercher l'information, mais que la forme a dû être peut-être plus difficile à trouver que le fond, à la limite. Donc, le quoi raconter versus comment le raconter.
Eh bien, écoute, en fait, c'est vraiment intéressant, parce que c'est toute la question, en fait, de l'autobiographie pour moi. En fait, de ce que j'essaye de faire en autobiographie. Bon, tout à l'heure, j'ai dit que j'essayais de questionner ce qui nous construit, hein. Et en fait, on sait très bien quand même maintenant depuis un certain temps que ce qui nous construit, ce sont les émotions. Ah, c'est ça. Les émotions, c'est fondamental dans la construction de l'être humain. Les émotions qu'on a vécues quand on était enfant, on se les traîne toute notre vie, quoi. C'est des choses qui sont très, très marquantes, par exemple. Ou quand il y a des grands événements comme ça, des traumatismes, des choses comme ça. Ou des émotions positives, au contraire. Hein. Ça peut être des choses, dans la sexualité, par exemple. Moi, ce que je raconte, c'est surtout des trucs, des choses positives, quoi. Donc, en fait, ma manière de faire de l'autobiographie, c'est d'essayer de partager des émotions, en fait. Et donc, effectivement, j'essaye de faire de façon assez chirurgicale une espèce de comment une ligne temporelle. Hein. On part d'un point A pour aller à un point Z, et c'est très précis. C'est-à-dire que je donne des événements très précis, vérifiables. Avec des dates, c'est argumenté. C'est pas mon frère, effectivement, il est mort tel jour, à telle heure, à tel endroit. Et je le dis ça. Et j'essaye, moi, dans mon travail, au moment où je fais ce travail-là, de me replonger, de me reconnecter avec les émotions que j'ai eues à cette époque-là. Au moment où je vivais tel événement, quelle émotion j'avais. Et ça, c'est un travail, c'est assez marrant. Hein, c'est un travail de. La mémoire, c'est une pelote. On commence à tirer sur un fil. Et puis hop, il y a des choses qui reviennent. Quand on se connecte pendant suffisamment longtemps, il y a plein de choses qui reviennent. Et je l'avais vécu avec Extase, ça, je l'ai revécu avec le petit frère. Et donc, après, une fois que je me suis connecté à ces émotions, là, on arrive à l'aspect formel, c'est-à-dire comment est-ce que je fais avec les moyens de la bande dessinée pour les partager de façon la plus précise, subtile possible. Voilà. Alors, j'ai recours à toutes sortes de procédés. Je m'interdis rien, quoi.
Oui, parce que dans le fond, je trouve intéressant parce qu'on revient un peu aussi à l'idée du scénario comme tel. Donc, tu pars avec une trame précise, mais si tu tombes trop précis dans la trame et tu sais exactement ce que tu vas dessiner, le processus devient intellectuel plutôt que ressenti. Il faut que tu te laisses toute la liberté pour.
Oui, mais c'est pour ça que je n'ai pas de scénario. Depuis que je fais de l'autobiographie, je travaille absolument sans scénario. C'est-à-dire que, en fait, je me laisse guider effectivement par le fil des émotions et des associations d'idées qui se font à partir des émotions de cette époque-là. Alors des fois, ça demande. Alors, dans Le Petit Frère, par exemple, j'avais des. Dans Le Petit Frère, j'ai beaucoup dialogué avec ma mère parce qu'elle se souvenait. J'avais des trous de mémoire. J'avais des moments où je me souvenais absolument. Il y avait des moments où c'était très précis et des moments où je me souvenais absolument de rien. Et donc, j'interrogeais ma mère par visio. Elle est en France. Moi, je suis au Canada. Donc, je lui faisais une visio le matin. Là, je l'appelais en disant « Maman, tu te rappelles de tel truc ?» et tout ça. Puis, elle me racontait, elle, ce dont elle se souvenait. Et je rends compte, dans la bande dessinée, je rends compte de ces conversations-là, voilà, qui viennent au moment de boucher. Et là, je suis vraiment… Et souvent, c'était en temps réel. C'est-à-dire que je l'appelais le matin… Et je prenais des notes pendant qu'on parlait, et ensuite, hop, je racontais la scène tout de suite, le même jour, quoi.
Oui, et des fois, ça devient parce que vous avez incorporé aussi ces moments-là avec ta mère dans la BD. Ouais. Donc, ça fait que ça permet aussi, j'ai l'impression, des fois, on est immergé dans le drame, dans le fond, et dans l'émotion du drame, et ces moments-là où, oups, on se retrouve, OK, on est 46 ans plus tard, on est dans cette temporalité, ça nous remettait peut-être aussi, nous, comme lecteurs, dans la notion de distance que j'imagine nécessairement toi, avec le décès de ton frère. Donc, le 46 ans a poli un peu les choses. L'émotion d'aujourd'hui n'est pas la même que celle de l'époque non plus.
Dieu merci. Et heureusement, oui, parce que... mais ça, c'est la vertu du temps, effectivement. La vertu du temps, puis aussi de ce qu'on appelle le travail sur soi. Effectivement... je n'ai pu raconter cette histoire parce que, en fait, ce qui était très troublant pour moi au moment de la sortie du bouquin. Bon, il faut dire qu'en France, ça a fait un gros buzz. Hein.
Ça continue d'en faire un d'ailleurs.
En tout cas, oui, non, mais moi, je reçois encore tous les jours des messages. Hein. Tous les jours, je reçois des messages de gens qui m'écrivent, qui viennent de lire le bouquin maintenant, là, qui viennent de l'acheter, de le lire. Bon. Donc, il y a eu une réaction extrêmement forte émotionnellement, je pense à cause du sujet, effectivement, hein, qui a touché beaucoup de monde. Et, Et donc, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de journalistes, j'ai fait beaucoup de radio, de télé, etc., etc., y compris des grosses émissions. Donc, avec des journalistes qui sont des professionnels aguerris, là, qui, bon, et qui étaient en état de choc. Enfin, qui était vraiment, qui venait me voir dans la loge avant l'enregistrement de l'émission de télé, par exemple, me disant, et ils étaient en état de choc, ils me disaient, ce livre-là m'a. Et alors, c'était très, très bizarre pour moi, parce que c'est la première fois que ça m'arrivait, ça, un truc comme ça, ce type d'émotion-là. Et les gens, en fait, projetaient, s'imaginaient, parce que eux venaient de lire. Ce livre, le livre, ils viennent de le lire, donc ils sont en état de choc. Et ils s'imaginent que pour moi, pendant tout le temps où j'ai fait ce bouquin, j'étais dans le même état. Et Dieu merci, ce n'est pas le cas. Parce que je pense que si ça avait été le cas, je n'aurais pas pu le faire, ce livre-là. Ça n'aurait pas été possible de tenir pendant 2 ans de travail en étant
Bouleversé.
écroulé sur ma table à dessin du matin au soir. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est que j'avais des moments de connexion à mes émotions. Donc, je suis capable de. On est tous capables hein, de se rappeler qu'à tel moment, on a vécu tel truc, et donc, voilà, dans quel état j'étais, etc., etc. Bon. Et puis après, il y a un auteur, qui est moi, qui va se servir de cette matière et qui va la retranscrire, qui va prendre cette matière dans l'homme, si j'ose dire, et qui va passer en mode auteur. Comment est-ce que je fais en tant qu'auteur pour partager de façon la plus précise possible ces émotions-là.
Oui,
Comment
puis
je fais
pas se laisser resubmerger, d'aller
pour.
jusqu'à un certain point dans
Non.
cette émotion-là, puis après
Oui,
ça,
parce
OK,
que si.
on ramène à la dynamique de travail, puis
C'est exactement ça. Parce que sinon, ça va être une bouillie émotionnelle et puis ça ne va pas forcément être bon. Moi, je n'aime pas ça personnellement. Moi, vraiment, je préfère que ça soit. Il faut trouver la bonne distance, quoi. Il faut trouver une distance narrative qui permette d'analyser en même temps, de contextualiser le truc. Ben voilà, à tel moment, j'étais en telle émotion. Pour telle et telle raison, ben regardez à quoi ça ressemblait. Voilà, tu vois. Là, tu pars.
Et dans un contexte ou d'un point de vue méthodologique, je pense que c'est important de le mentionner, puis qu'on détaille un peu ta démarche, mais dans le fond, où on y va avec le dessin numérique, le dessin sur iPad et autres. Donc, ce qui fait que le scénario n'étant pas nécessairement là, l'émotion étant reconnectée, mais trouver la bonne façon de la rendre, ça donne la liberté de faire de l'essai-erreur de façon beaucoup plus libre que si on était sur un dessin sur papier, qu'il fallait constamment être en train de recommencer.
Ben, je sais, alors en fait, j'ai fait cette expérience-là avec Extase, puisque Extase s'est fait sur papier. Et dans le tome 1 d'Extase, ça a été sans problème. Je l'ai fait vraiment dans l'ordre chronologique. J'ai rien retiré, rien. Tout était impeccable. Le tome 2, j'ai eu quelques soucis à un moment donné. Je me disais, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a une longueur à tel endroit? Enfin, j'étais pas tout à fait sûr du truc. Donc, j'ai demandé à mon éditeur. De regarder ça, et du coup, ça a entraîné effectivement des modifications dans lesquelles ben, il y a des séquences qu'on a supprimées. Alors là, ça, c'est un peu quand même du montage au cinéma, quoi. Hein, ah ben celle-là, non, on la coupe. Ah, c'est con quand même, parce qu'elle était bien, cette séquence. Ah ben ouais, mais là, ça colle pas. Donc voilà. Alors, bon, c'est une séquence, c'est une journée. Moi, je fais une page par jour, donc c'est une, deux, trois, 4 jours de travail qui passent. Mais c'est ça qu'il faut. Et puis, après, ben, éventuellement, sur le tome 2 d'Extase, on a inversé des séquences, on a pour essayer de dynamiser le récit, etc. Mais c'est comme du montage de cinéma. Et puis, alors, du coup, après, une fois qu'on a eu fait ça, ben, moi, il a fallu que je redessine derrière des pages pour faire des liaisons entre la manière dont on avait changé les choses, etc., etc. Voilà. Alors, c'est sûr que le fait d'être passé au numérique pour le petit frère, par exemple, c'est un gain de temps absolument phénoménal. Pas sur ça précisément, parce que les pages, il faut les dessiner de toute façon. Mais par contre, on peut on peut, comment dire, ce qui est formidable dans le numérique, c'est qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de peine de mort, quoi. C'est-à-dire que quand on dessine sur papier, on peut, à un moment donné, en fin de journée de travail, faire le geste qui va foutre toute la page en l'air. On va faire un lavis qui ne va pas fonctionner, ou on va faire. Bon, enfin, bref, c'est foutu. La page est foutue. C'est une journée de travail qui est foutue. Et puis l'autre part, quand on a des séquences, par exemple, où on va avoir, je sais pas, un dialogue qui va se passer, où il va y avoir 4 pages qui vont se passer exactement dans le même décor, etc., etc., ben, il va falloir redessiner le décor à chaque fois. En numérique, on n'a plus ce souci-là. Donc, on peut reprendre le même décor. J'ai une séquence dans Le Petit Frère qui dure une quarantaine de pages, qui raconte la veillée, l'interminable veillée, enfin, qui, moi, m'a paru interminable à l'époque, ça a duré 3 ou 4 jours. La veillée, ce qu'on appelle la veillée funéraire, ça existait encore à l'époque. On faisait ça chez les gens, là, c'était chez mon oncle, donc il y avait le cercueil de mon frère qui était au milieu de la pièce, et puis les gens qui venaient faire les visites, etc. etc. Ben, cette séquence-là, qui est relativement longue, j'ai dessiné les décors de la pièce en recto, enfin en champ contre champ, et puis je me suis resservi à chaque fois du même décor en zoomant dedans. Bon, voilà. C'est des petits trucs comme ça qui font que c'est un gain de temps formidable et un gain de qualité. Parce que comme il n'y a pas de sanctions, on peut essayer des choses. Et par exemple, dans les couleurs que j'ai fait dans Le Petit Frère, puisqu'il y a des séquences, certaines séquences, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire il m'est arrivé à certains moments de dire ben, pour transcrire l'émotion que je veux transcrire pour cette séquence, il me faut de la couleur. Donc, j'ai cherché quelle était la couleur, en quoi la couleur pouvait avoir du sens, amener quelque chose, et j'ai essayé. Alors, ben, y a la séquence où on m'apprend la mort de mon frère, par exemple, à l'hôpital, j'ai essayé, 15 couleurs différentes avant d'arriver à trouver. Et puis, à un moment, je me suis dit, OK, c'est ça. Voilà, ça y est. Là, ce que je viens d'essayer là, j'ai trouvé. C'est ça qui évoque le mieux ce que je ressentais. Mais ça, oui, peut pas se faire sur papier, c'est clair.
Non, exact, parce qu'il faut trouver, puis c'est la forme. Je pense que les deux exemples de séquences sont absolument frappantes dans le livre et sont réussies, par ailleurs, à mon sens. Mais la séquence de l'hôpital, par exemple, dans le fond, où il y a comme un mantra, il est mort, on se retrouve avec des scènes, il y a comme une buée, en fait, presque là-dedans. Donc, quand on parlait de la forme pour rendre l'émotion, pour partager l'expérience, bien, j'imagine qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on est sur une piste, qu'on commence à trouver une façon de dessiner l'émotion, parce que c'est littéralement ce que tu fais. Et je pense que la séquence de l'hôpital, c'est le meilleur exemple là-dessus, ou un des meilleurs exemples de l'album. Là.
Mais ça commence à voir, en fait, ça commence avec Extase. Quand j'ai commencé Extase, en fait, j'avais raconté ça dans la préface du tome 1, je crois. C'est Régis Loisel, avec qui j'ai fait Magasin Général, avant de faire Extase. C'est Régis Loisel qui, un jour, dans un repas ici au restaurant à Montréal avec le directeur éditorial de Casterman, Benoît Mouchard, m'ont convaincu tous les deux qu'il fallait que je raconte ces histoires-là. Et moi, j'étais au début, je n'étais pas très convaincu de l'intérêt de la chose, et sauf au moment où j'ai compris que ça pouvait avoir un intérêt si j'en faisais une autobiographie. Parce que là, ça pouvait, en m'impliquant moi-même personnellement comme ça là-dedans, on pouvait aller chercher quelque chose qui est de l'ordre, alors je ne le formulais pas comme ça à l'époque, mais de qu'est-ce qui nous construit. Ce que, voilà, tout à l'heure, ouais, c'est ça. Donc... Bon, OK, donc je suis sorti de ce restaurant en me disant, bon, ben, je vais faire ça, OK. Puis là, j'étais quand même en train de, tu vois, de dire, mais comment je vais faire, quoi? Comment je raconte ce truc-là? Et un jour, je parlais de ça à Régis. Je lui dis, mais comment je vais faire? Et Régis m'a dit, raconte-le comme quand tu m'en parles, quand tu me le racontes à moi, oralement, quoi. Et ça a été un déclic hyper important. Parce que je me suis dit, ben, en fait, il ne faut pas que je cherche à faire... À trouver une manière de le raconter, il faut juste que je le raconte.
Ouais.
Et en fait, je crois que la manière dont je fais de l'autobiographie en bande dessinée, elle est extrêmement proche de la manière dont je suis, moi. Qui je suis, et comment je fonctionne, comment... Ouais, voilà, là, les auditeurs ne peuvent pas nous voir, mais nous, on est en visio, et je parle avec les mains. Je suis un gars du sud de la France, je parle avec les mains, voilà. Donc, je suis quelqu'un d'assez volubile, enthousiaste, etc., etc. Et c'est ça que j'ai... En fait, c'est ça que j'ai... C'est comme ça que je raconte mes histoires. Alors évidemment, dans Le Petit Frère, je ne peux pas raconter l'histoire de la mort de mon frère comme je raconte...
On n'est pas dans le même temps.
Non, comme je raconte la sexualité, qui est dans mon cas quelque chose d'extrêmement joyeux. Je ne peux pas raconter. Mais par contre, je raconte Le Petit Frère comme si je parlais du deuil de mon frère à quelqu'un. Et donc, ce n'est pas les mêmes moyens, ce n'est pas les mêmes émotions, mais c'est les mêmes, C'est la même personne qui raconte, quoi.
Ouais. Oui, ben en fait, tu parlais tantôt de la séquence, justement, de la veillée, le 40 pages. Dans le fond, de la façon dont tu le racontes, on passe d'un élément à l'autre, il y a des flashs, il y a des. Ça a de l'air raconté presque un peu dans le désordre. Et je comprends en lumière de ce que tu me dis, mais dans le fond, c'est comme ça que tu me raconterais ça, ces événements-là se bousculent. Ouais. Ce 4-5 jours devient un moment un peu épars où il y a des flashs, puis il y a des trucs marquants, puis c'est comme ça que, en le racontant comme tu l'as vécu, ça nous permet de le vivre aussi un peu par procuration à travers l'album, dans le fond.
Mais c'est exactement ça. Moi, cette scène-là, en fait, ce moment-là, je l'ai vécu. Mais ça, je crois que c'est un truc qui est universel. Beaucoup de gens m'ont fait des retours qui allaient dans ce sens-là. C'est-à-dire ce moment où ce qu'on vit est tellement inacceptable que, en fait, il y a une espèce de distance. On est dans une espèce d'état cotonneux, comme ça. On tient la réalité à distance, quoi. On est plus, voilà, on veut pas y être, quoi. Et donc, tout se finit par se brouiller. On n'a plus de, c'est complètement déstructuré. On mange quand on a faim, on dort quand on a sommeil, mais ça peut être au milieu de la journée. La nuit, on veille le corps, puis on s'endort. Puis, enfin bon, bref, c'est une espèce de truc un peu… Voilà. Moi, il y a un procédé au cinéma que je trouve qui rend extrêmement bien compte de ce moment-là, et qui a été archi-utilisé, mais vraiment que je trouve… très très fort parce que très juste, c'est quand il se passe un événement, je ne sais pas, une bombe qui explose, un truc comme ça, et là on va voir les gens qui vont fonctionner au ralenti et il n'y a plus de son, ou alors c'est des espèces de sons un peu distordus comme ça, tu sais, puis tu vois le gars qui est un peu comme il ne sait pas trop où il est comme ça, et puis il y a cette distorsion et de l'image et du, et c'est ça, voilà. Alors moi c'est un peu ça que j'essaie de rendre compte dans cette séquence-là, effectivement. D'ailleurs, il y a très peu de dialogue dans cette séquence-là.
Oui, parfait. Mais même de façon générale, j'ai l'impression qu'avec le livre, il y a une appropriation du silence. Enfin, il y a des moments où,
certains moments.
On présente, ça c'est un bon exemple aussi, où le silence devient plus parlant, le désarroi, les gens qui pleurent dans la cour, toi qui regardes au loin, les repas somptueux à travers tout ça, parce qu'il y a plein de monde qui vient, puis c'est un peu...
Ça, c'est ce qui est absolument génial avec la bande dessinée. Plus je fais de la bande dessinée, plus je trouve que c'est un moyen de... C'est un médium extraordinaire, quoi, avec des possibilités, mais phénoménales. Et qui est extrêmement adapté pour rendre compte de certaines choses. La grosse force de la bande dessinée par rapport au roman, c'est qu'on a l'image. Donc, on peut éviter des descriptions à certains moments. On peut éviter, on n'a pas besoin de d'écrire. À certains moments, on n'a pas besoin d'écrire. À d'autres moments, oui. Et à d'autres moments, c'est le texte qui prend le pas sur l'image parce que le sens est donné par le texte et l'image vient accompagner ce texte-là. Et à d'autres moments, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'image qui est peut-être toute seule, se suffit, ou juste avec un petit texte qui vient accompagner l'image, pour le coup, un petit dialogue, etc. etc. Et c'est suffisant.
Et tout ça, justement, j'ai l'impression, parce que là, on parle de faire vivre, de donner de l'espace. Dans le fond, la bande dessinée fait à peu près 350 pages. Donc, à un moment donné, j'imagine que c'est devenu un peu incontournable de dire, bien, dans le fond, ça ne sera pas un petit livre. Il va falloir qu'on prenne de l'amplitude pour, justement, avoir le temps d'avoir cette lenteur-là, avoir le temps de ressentir ce désarroi-là, avoir le temps de placer ces choses-là. Parce que placer une émotion, c'est pas comme placer un événement non plus. Il faut qu'elle vive au-delà d'une case pour avoir un impact sur le lecteur, j'ai l'impression.
Ben, écoute, au cinéma, il y a des réalisateurs qui font des films longs et ils ne savent pas faire plus court, visiblement. D'ailleurs, moi, par exemple, avec les séries, c'est une des choses que j'adore dans les séries, c'est que ça laisse le temps pour justement développer vraiment des personnages, aller dans le détail, dans le petit truc signifiant, dans les petites choses comme ça qui font que ça construit un portrait beaucoup plus précis. Donc, il semblerait que moi, je ne sais pas faire un court. Voilà, on voit comment je suis bavard aussi, j'ai ce côté un petit peu exhaustif, j'aime bien que les choses soient précises, qu'on raconte là, que ce soit précis, que ce soit pas approximatif, quoi. C'est ça, mais c'est pas exactement ça, et si je te dis ça, ça reprécise un petit peu, puis et le fait de le contextualiser, ça s'est passé à tel endroit, à tel moment, c'est important parce que ça permet de comprendre autre chose, tu vois, bon, voilà. Oui. Donc, en fait, pour moi, depuis Magasin Général, alors, il faut dire que dans les années 80, j'ai beaucoup souffert, hein, parce que quand on faisait de la BD dans les années 80, c'était 46 pages, point barre. Et là, c'était, pour moi, c'était toujours trop court et c'était toujours un peu souffrant, quoi. Donc, depuis Magasin Général, en fait, pour moi, Magasin Général, c'est un grand roman graphique. C'est un roman graphique en 9 tomes, mais c'est une seule histoire, dans le fond. C'est vraiment... voilà. Donc, ce qu'on nous a... Enfin, dans Magasin Général, par exemple, il y a déjà beaucoup de silence, de regard. Moi, je disais, quand on faisait des interviews à propos de Magasin Général, je disais, ben ouais, mais des fois, dans la vie, il y a des choses qui sont, quand on parle de l'humain, là, tu sais, quand on parle des vraies affaires, comme on dit au Québec, c'est une expression que j'adore, là, parler des vraies affaires. Bon, ben, quand on parle des vraies affaires, ça ne se fait pas comme ça, tchac-tchac, voilà. Non, quand on parle des vraies affaires, souvent, il y a des silences, il y a des hésitations, il y a des regards qui en disent plus long qu'une phrase. Il y a des gestes, etc., etc. Eh bien, moi, j'ai besoin de rendre compte de tout ça. Et dans Magasin Général, on l'a beaucoup fait, ça. Et on s'est rendu compte, en plus, que les lecteurs aimaient ça. Hein, des cases comme ça, avec juste le temps qui passe, les saisons, les trucs, il n'y a pas de texte.
De sentir les choses vives, puis de sentir la réaction ou le contre-choc. Puis même, si on va avec une séquence de l'album, il y a un moment, je pense que c'est 9 mois après l'accident, 8 mois après l'accident, tu vas avec ton père, dans le fond, sur les lieux, parce que lui n'était pas là. Donc, il avait envie de voir, il souhaitait voir pour qu'on concrétise peut-être un peu l'accident lui-même. Puis là, tu lui parles de ce qui s'est passé, mais lui, il n'est complètement pas là. Et tu as choisi de mettre l'emphase justement sur son regard. Dans le fond, au bout du compte, le texte et toi, plus factuel, vous êtes complètement en arrière-scène et en avant, il y a une émotion qui se vit dans le silence. Mmh. Et au bout du compte, toute la parole, tout le bruit, c'est du décor, parce que la vraie narration de cette séquence-là, c'est le silence et c'est le regard de ton père où il y a quelque chose qui est mort à ce moment-là et qui ne reviendra jamais. Là. C'est un phare pour lui et pour votre relation aussi, j'imagine.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, mon père, il n'a jamais été le même avant. Ben, mes parents, hein, d'une manière, mes deux parents, ils n'ont plus été les mêmes avant. Mais mon père, il était vraiment, il avait un truc qui s'était complètement déconnecté. C'était pendant très longtemps, quoi. C'était terrible. Oui, ben c'est ça. Tout ça, ce sont des choses qui... tu sais, au cinéma, c'est du temps. En bande dessinée, c'est de l'espace. Mmh. C'est des pages.
Et donc, c'est qu'avec les pages, on fait de l'effet, un peu comme pour l'enterrement, alors. Un peu par après. Je veux dire, encore là, tu sais, autant la veillée, c'est 40 pages, ouais. La séquence de l'enterrement, puis avec toutes les amis, les trucs. Puis à un moment donné, on arrive avec les amis de classe du jeune. Puis si tu n'avais pas eu le temps de se retrouver un peu puis de nous mettre dans cette ambiance-là, ben, l'effet progressif de toutes ces présences-là, on n'arrivait pas à le ressentir comme toi et ta famille, vous l'avez ressenti à l'époque, ou du moins de se faire une idée de comment vous l'aviez ressenti.
Et c'est très exactement ça. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut le temps qu'il faut. Il faut le temps qu'il faut pour raconter une scène. Pas plus, pas moins, si tu veux. Et j'ai beaucoup de difficultés. Et tu sais, je suis tout le temps en train... J'essaye pas de faire long. Hein. J'essaye vraiment de faire le plus court possible. Je suis tout le temps en train de me dire, attends, il faut pas que je... Voilà, tu sais, il faut pas que j'en rajoute. Il faut pas que je... Voilà. Mais de quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin pour que le lecteur partage l'émotion, comprenne ce que je suis en train de lui raconter? Bon, ben, des fois... bon, j'aime pas j'aime bien les mises en page assez aérées. Là, je ne travaille jamais avec plus de 6 cases par planche, et encore, ça, c'est beaucoup. Souvent, c'est 3, 4, hein, tu vois, ça, c'est de cet ordre-là. Des fois, même, c'est 2, et des fois, ça peut être 1. Donc, ça dépend de ce qu'il faut, voilà, de ce qu'il faut raconter. Mais, donc, du coup, ben, évidemment, quand je travaille 2 ou 3 cases, par exemple, là, toujours la fameuse séquence là, de la veillée mortuaire, ben, j'avais besoin de grandes cases parce qu'il y avait des fois beaucoup de monde, puis je voulais rendre cette impression comme ça de foule, comme fait de beaucoup de gens dans des espaces réduits, etc. Et ben, forcément, tu ne fais pas ça. Et puis, il faut qu'il y en ait suffisamment pour qu'on comprenne. Là. C'est pas suffisant d'en montrer 2 cases. Il faut qu'on montre que ça dure, puis ça revient, puis ça, voilà. Et ça, c'est un truc, ça prend de l'espace.
Ça prend de l'espace, puis j'imagine ça prend aussi, je veux dire, il faut quand même avoir une variété, il faut quand même créer un rythme à travers tout ça. Donc, pour la veillée, ben, le processus en flash sert à la fois pour retranscrire l'émotion, mais sert à la fois pour varier un peu l'élément, puis se retrouver un peu dans cette ère-là. Au niveau des funérailles, ben, je trouvais qu'on se retrouvait plus dans un motif un peu récurrent avec le cercueil, avec le noir, avec les larmes, etc. Mais en même temps, trouver toujours un peu, puis je veux dire, comment pas tomber dans le pathos, comment trouver le bon équilibre aussi. Ça, c'est, t'sais, on veut pas que ça soit larmoyant, on veut transposer une émotion. Évidemment, on pleure en lisant ça, mais t'sais, c'est pas, on pleure pas parce que c'est du pathos, on pleure parce que l'émotion nous rejoint. C'est pas la même chose.
Moi, le pathos, ça a tendance à avoir l'effet inverse, parce que si ça commence à être plein de pathos, je le vois, et là, je me dis, ah, toi, t'essayes de me faire pleurer. Et ça ne va pas marcher. Donc, je suis assez résistant à ça. Et surtout, moi, je ne veux pas de ça dans mes bouquins. J'en veux pas. C'est vraiment quelque chose qui me gêne, quoi. Donc, je suis très attentif à ça. Là, j'avais un gros défi avec le petit frère, hein, parce que je savais qu'il allait falloir que je dessine des gens en train de pleurer. Hein. C'était inévitable. Et puis, et même de pleurer beaucoup. Pas de verser une petite larme. Et donc, la question, c'était comment tu fais pour dessiner ? Parce que ça, par contre, c'est problématique en bande dessinée. C'est-à-dire qu'au cinéma, tu as quelqu'un qui pleure, c'est une vraie personne qui pleure, et si c'est un bon acteur, on voit l'émotion vient, etc., etc. Bon. En bande dessinée, quelqu'un qui pleure, ça peut très vite être ridicule, être caricatural, pas fonctionner, etc. Bon. Donc, en fait, le problème, c'est que si tu sors l'image de son contexte, ça peut être ridicule. Donc, il faut absolument que tout ce qui arrive avant et qui t'amène à cette image-là t'amène dans l'émotion. Tu arrives à saisir le personnage, le lecteur, pardon, par la main, comme ça, par le bout de l'émotion, et puis de l'amener sans jamais le perdre, quoi. Il faut tirer sur le fil tout doucement, en le guidant comme ça, mais sans le perdre, sans casser, sans tirer trop pour que ça casse. Et là, tu peux l'amener au...
Et c'est un peu pour ça, j'imagine, que l'accident lui-même devient un motif récurrent aussi, dans le fond, où vous l'avez toujours à l'esprit, évidemment, à travers ça. Et dans le fond, tu nous le ramènes à l'esprit en disant, ben, raccrochons-nous à ce drame-là qu'on a partagé avec toi un peu plus tôt, peut-être 100 pages avant, 200 pages avant.
Quelque chose qui se... Tu sais, l'essentiel du livre raconte une période qui se passe sur quelques mois, dans le fond. L'accident arrive très tôt dans le livre. Hein. Je crois que c'est à la page 17. Alors, c'est tout de suite, il n'y a pas de suspense. Après, il y a les séquences donc, de l'hôpital, de la gendarmerie, l'hôpital, tout ça, qui quand même prend pas mal de place, la veillée mortuaire, les obsèques et tout ça. Puis après, quelques scènes qui se passent après. Et puis après on vient beaucoup plus loin. On va au procès, déjà. Le procès, c'est un an après. Et puis après, on vient de nos jours, quoi, en fait. Finalement, la fin du bouquin, je ne veux pas la divulguer, la fin du livre, mais bon, c'est un truc qui se passe de nos jours. Et donc, en fait, c'est ça. Il y a des images qui, pendant très très longtemps, en tout cas pendant la première période qui se passe sur un an, on va dire, des images qui étaient constamment présentes et qui ont même sont restées présentes pour moi pendant beaucoup plus longtemps. La main de mon frère qui lâche la mienne, c'est une image qui m'a hanté pendant très longtemps dans ma vie. Plus maintenant, Dieu merci. Hein, mais tu vois, quand j'ai commencé à raconter ce bouquin-là, je disais tout à l'heure que j'ai pu le faire parce que je ne suis plus là-dedans, justement. Et que tout ça, ça y est, c'est réglé. Mais cette image-là, elle était. J'ai pas eu besoin de faire d'efforts pour la retrouver, tu vois. C'était vraiment. Voilà, elle était extrêmement présente, quoi.
Oui, puis en même temps, ça donne l'impression presque. Puis je pense que tu le mentionnes d'ailleurs dans d'autres entrevues, donc c'est pas une illumination de mon côté, mais où au bout du compte, tu te retrouves aussi à dessiner ce que toi, tu n'as pas vu dans cette séquence-là, dans le fond, ouais. où tu lâches la main et tu vas au-delà de celle-là pour voir le choc, pour voir. Qu'est-ce qui arrive par la suite, dans le fond?
La main qui lâche, ça, évidemment, c'est le dernier souvenir que j'ai de mon frère, dans le fond, enfin, de mon frère vivant, quoi. Enfin, parce qu'après, ben, il n'est pas mort sur le coup, mais après, effectivement, le reste, l'accident lui-même, je ne l'ai pas vu, moi. Ça allait trop vite. J'ai vu la voiture passer, pouf, tu vois, et mon frère n'était plus là. Et donc, j'ai dit qu'effectivement, si ça se trouve, j'ai dessiné ce bouquin pour dessiner cette page de l'accident, qui est la seule chose que je n'ai pas vue, dans le fond.
Oui, parce que tu étais le seul personnage qui... Sinon, en fait, je veux dire, c'est toujours selon ta perspective. D'ailleurs, tout l'album, tu es le seul personnage qu'on voit penser. Tu restes dans ta vérité, sans tomber dans celle de tes autres aussi. Donc,
ça, c'est une règle aussi d'autobiographie pour moi. C'est que jamais, à aucun moment, ni dans Extase, ni dans Le Petit Frère, jamais je n'attribue de pensée à quelqu'un d'autre que moi. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Je vois les gens. Donc, je perçois quelque chose d'eux à ce moment-là. J'ai une impression d'eux, mais je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Donc, je ne peux rendre compte que de ce que je vois et pas de... Tu vois, je ne fais pas de suppositions. Donc, ma mère, par exemple, je la fais parler. Alors, elle, ou quand je fais parler mon frère ou ma sœur, ce sont des conversations que j'ai eues avec eux, des vraies conversations. Donc, je synthétise, évidemment. Il y a forcément une... Bon, mais du coup, ce que je raconte, c'est forcément ma version à moi. Ça ne peut être que ça. Et c'est très important. Tu vois, mon frère, par exemple, mon frère n'a pas lu Le Petit Frère. Mon autre frère, Dominique. Il n'a pas lu Le Petit Frère et on a eu des conversations là-dessus et il m'a dit, mais en fait, tu vois, moi, le problème que j'ai avec ton bouquin, c'est que c'est devenu l'histoire officielle maintenant. Parce qu'un jour, il était avec ma mère et ma tante et puis à un moment donné, il parlait de ça. Évidemment, le bouquin venait de sortir et tout ça. Donc, et puis, ma mère a dit un truc du style, ben oui, mais regarde, bien sûr, c'est ça qui s'est passé, c'est dans le livre de Jean-Louis, tu vois. Et mon frère, il dit, mais attends, le livre de Jean-Louis, c'est pas la Bible, quoi. C'est pas la vérité officielle, c'est sa vérité, à lui. Et ça, c'est super important de dire ça, tu vois. C'est forcément quelque chose de subjectif, c'est ma manière de... Mon frère, je suis persuadé qu'il ne se reconnaîtrait pas dans la manière dont je le dessine au moment après l'accident, là, dans cette espèce d'état de choc mutique dans lequel je l'ai dessiné pendant tout le bouquin, sauf la fin, évidemment. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Voilà. Mmh. Et ma mère aussi un peu l'a perçu comme ça, parce que j'en ai parlé avec elle. Effectivement, elle a ce souvenir-là, elle, de cette espèce de rideau qui est tombé. Mais lui, non. Quand on est arrivé, bon, je vais divulgâcher un tout petit peu, mais à la fin du bouquin, quand même, on va avec mon frère et ma sœur sur le lieu de l'accident. Donc, ça, c'était à l'été, l'été dernier. Enfin, pas cet été-là, mais 2021. On va sur le lieu de l'accident. Et ça, c'est une idée que j'ai eue dès le début du livre. Je m'étais dit, tiens, la fin, ça va être ça. Et en fait, ça n'a pas été exactement ça, mais je pensais que ça allait se finir là, sur le lieu de l'accident. Donc, j'ai demandé à mon frère et à ma sœur s'ils accepteraient de venir avec moi là-bas. Ils m'ont dit oui. Et donc, on a fait ce voyage-là. Et quand on est arrivé sur le lieu de l'accident, ma sœur, évidemment, n'était pas née à la mort de mon frère. Donc, elle n'y était jamais allée. Mais mon frère, lui, il m'a dit, oui, je reconnais tel truc. Et à un moment, il me dit, je reconnais ça. Là-bas, c'est le virage où je suis allé faire la circulation. J'ai dit, mais comment ça, tu es allé faire la circulation là, toi? Et il me dit, ben, tu vois, comme quoi la mémoire, hein, parce que moi, je n'avais pas ce souvenir-là du tout de lui. Et quand il me l'a dit, ça m'est revenu. Quand il me l'a dit, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est ça qui est intéressant avec la mémoire. Et j'ai eu des histoires comme ça déjà dans Extase. Dans Extase, des conversations après la sortie du bouquin, avec notamment avec la personne qui est le personnage principal avec moi dans le tome 1, qui s'appelle Caroline dans le tome 1. Et on s'est vu, on ne s'était pas vu pendant 30 ans. Donc, on s'est revu après la sortie du bouquin. Et donc, elle avait lu le livre et tout ça. Bon. Et elle m'a dit, mais tu te rappelles de tel truc et tout ça? Et moi, je ne me rappelais pas de ça. Et par contre, il y avait des choses que je racontais qui ont été super importantes pour moi, dont elle n'avait pas de souvenir. Je me suis dit, c'est pas possible que tu ne te rappelles pas de ça, enfin. Ah ben non, je ne me souviens pas. Mais tu te souviens de tel truc? Puis je me suis dit, oh merde, ça, j'aurais adoré raconter ça, là, mais je ne m'en souvenais pas.
Oui, en fait, il y a des éléments, en fait, je veux dire, qui ont eu un impact plus fort à un moment donné ou qui ont resté en mémoire. Oui. Puis d'autres qu'on a tassé parce que pour une raison ou une autre.
Ben... Oui, et puis des fois, c'est des trucs importants qu'on a tassés. Hein. Oui. Ça peut être des trucs importants, justement, c'est ça.
Oui, qui donnent un peu de lecture additionnelle.
Exactement. Donc, c'est ça qui est fascinant dans ce. Enfin, c'est assez passionnant cet aspect du travail, je trouve.
Oui, puis ça, on tombe un peu, même, j'ai envie de dire, dans le côté enquête du travail, parce que reste que justement la mémoire, si on part du principe qu'on sait qu'elle oublie et qu'il y a des pans, tu le disais, mais tu as jasé avec ta mère, tu as jasé avec ta famille, tu as été chercher des documents, des procès-verbaux, les trucs de cours, tu es retombé dans des vieilles lettres aussi de ta mère. Donc, il y a quand même une notion d'enquête pour essayer de voir s'il y a des éléments importants qui avaient pris de bord. Là.
Oui, mais il y a ça, et puis il y a aussi simplement le fait de travailler sur... Écoute, là, je suis en train donc de commencer un livre qui raconte mon enfance, ma petite enfance, enfin, de ma naissance à mes 14 ans, disons. Et là, je suis dans la toute petite enfance, et je raconte une scène, je dessine une scène dans laquelle mon père me lit une histoire, me raconte une histoire le soir avant de m'endormir, quand j'ai peut-être 3 ans. Quoi. Et je commence à raconter cette histoire-là. Et puis, il faut que j'essaye d'imaginer le décor, tu vois, de me dire, OK, bon, c'était ma chambre d'enfant et tout ça. Puis, je suis là, je commence à dessiner un petit peu, mais et tout d'un coup, l'image extrêmement précise de mon lit d'enfant me revient. Mais super précise, c'était un lit qui était avec une tête de lit arrondie, comme ça, un demi-cercle, et avec des petites étagères sur les côtés et tout ça. Je n'avais pas pensé, j'avais complètement oublié ce truc-là. Enfin, complètement oublié, non, mais je n'y pensais plus. Je n'avais pas pensé jusque-là. Et tout d'un coup, en focusant là-dessus, précisément sur mon père racontant cette histoire-là, le truc est revenu, mais plaf, tu vois, d'un coup. Ben voilà, tu as des trucs comme ça quand tu commences vraiment à te concentrer là-dessus. Puis ça, je pense que c'est un exercice intéressant que tout le monde peut faire, hein, vraiment. Mais il faut vraiment focusser sur une partie. Alors évidemment, moi, quand je fais un bouquin comme ça, ça va prendre 2 ans à chaque fois. Donc j'ai le temps de. Tu sais, pendant 2 ans, on peut dire je pense qu'à ça, quoi. Tu sais, je suis tout le temps en prise avec cette période-là de ma vie. C'était pour le petit frère, c'est. Beaucoup de gens me disaient « ça n'a pas été trop éprouvant », etc., etc. Puis je disais « non, en fait, non. Ça a pas, non seulement ça n'a pas été éprouvant, mais même ça a été plutôt doux. Parce que, en fait, pendant 2 ans, c'est comme si j'avais vécu avec mon frère. C'est comme si je l'avais ressuscité pour moi, tu vois, mon frère. J'ai pensé à lui tout le temps, j'avais sa photo, j'avais pas la photo de mon frère tout le temps sous le nez avant. Mais à partir du moment où j'ai commencé à faire ce bouquin, là, j'ai sorti les photos et j'avais la photo de mon frère que je vois tous les jours dans mon atelier, tu vois, qui est encore là. Et finalement, ça lui a redonné, tu vois, une espèce de... Ouais, enfin, tu vois, il y a quelque chose qui s'est passé de ce côté-là. Et le fait que les réactions... Ça, c'est un truc qui a été, je pense, bien pour ma mère, tu vois, parce que ma mère s'est rendue compte, c'est pour elle, ça n'a pas été évident quand même, quand je lui ai annoncé que j'allais faire ça. Mais d'abord, elle a été partie prenante parce que je l'ai beaucoup interrogée. On a eu des conversations, donc elle a été un peu partie prenante du truc. Et du coup, elle avait un rôle, tu vois, là-dedans. Elle n'était pas juste passive à subir ça. Et puis l'autre affaire, c'est que quand le bouquin est sorti, les réactions ont été tellement fortes, l'accueil a été tellement incroyable que tout d'un coup, elle s'est dit, mais en fait, mon fils, maintenant... il existe dans la mémoire de beaucoup plus de gens qu'avant. Quoi. Tu vois, avant, il y avait le cercle familial. Maintenant, il y a plein de gens qui... Et moi, je reçois des trucs incroyables. Écoute, là, c'était la Toussaint il n'y a pas longtemps, hein, le 1er novembre. J'ai quand même reçu un message d'une dame qui est allée au cimetière qui est de Montauban, donc l'endroit où est enterré mon frère, et qui est allée mettre des fleurs sur la tombe de mon frère. C'est hyper émouvant quand même comme truc. Elle ne le connaît pas du tout, tu vois, mais bon, voilà. Elle est allée fleurir et elle m'a envoyé une photo de la tombe de mon frère. Quand j'ai raconté ça à ma mère, elle était super émue, tu vois. C'est quand même, c'est vraiment, c'est fort, quoi, comme truc.
Oui, enfin, elle a lu le témoignage, elle a reçu cette émotion brute-là. Ouais. Dans l'album, puis à s'inviter dans le fond dans le cercle de mémoire de.
Mais il y a des gens qui ont écrit des lettres à mon frère en s'adressant à lui. Tu vois, j'ai des gens qui m'écrivent en me disant j'ai lu votre livre hier soir Et ce matin, bon, j'étais très ému, tout ça. Et ce matin, enfin, toute la journée, aujourd'hui, j'ai pensé à Gilles. Ils ne disent pas, j'ai pensé à votre frère. Ils le nomment, comme s'ils le connaissaient.
Oui.
C'est hyper émouvant. Enfin, moi, c'est un truc qui me bouleverse, ça, complètement, quoi. Et je pense que ma mère était sensible à ça aussi, beaucoup.
Puis d'avoir réussi, dans le fond, à placer, je veux dire, parce que en même temps, tu dis de prendre le temps, mais Gilles, dans cet album-là, il est omniprésent, évidemment, dans l'album, mais on a quoi, à peu près 15 pages pour le cristalliser, pour
Oui,
cristalliser
parce qu'on ne le voit pas
quel
beaucoup dans le
enfant
fond.
il était,
Mais...
et de réussir à faire mouche, dans le fond, de dire, OK, en 10-15 planches, comment je peux résumer, dans le fond, l'esprit de ce frère-là pour le fixer? Pour après ça, que ça nous reste en tête aussi durant tout le reste de l'album, puis que ça, puis
Alors,
de le rendre véritablement
ça, c'est
aussi.
très, très intéressant ce que tu dis là, parce que au début, quand j'ai commencé à faire le bouquin, j'avais. Bon, moi, je fais lire toujours mes pages à quelques. J'ai un petit cercle autour de moi, de lectrices, surtout lectrices d'ailleurs, privilégiées, là, avec qui, alors, il y a ma blonde, tu vois, qui est ça. Et puis, je fais lire aussi à Aude Mermillot, qui est mon ex, donc, et qui est autrice, hein, donc, voilà. Et donc, on a un échange d'auteurs, comme ça. Et au début du truc, elle m'avait dit, oh, mais l'accident arrive super vite dans le truc, super tôt, et... Est-ce que la question, c'est est-ce que le lecteur vont embarquer? Parce que finalement, dans le fond, on ne connaît pas cette famille, on ne connaît pas ces gens, etc., etc. Et j'avais dit, écoute, moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se faire à partir de là, c'est-à-dire à partir de l'accident, justement, que, comment dire ça? Que la manière dont je vais, enfin, en tout cas, moi, j'avais une vision assez claire de ce que je voulais faire, et je prenais le pari que la manière de raconter, j'aurais de raconter cette chose-là, allait faire en sorte que les 15 pages qui se passent avant l'accident vont être tout le temps comme une espèce de tu vois, de référent. Et en fait, parce qu'en réalité, Gilles, le vivant, on le voit dans quelques pages avant, notamment dans cette séquence où il chante du Michel Fugain, là. Ça, c'est la séquence clé de montrer comment il était, et dans une deuxième séquence qui est cette espèce de rêve que je fais pendant la veillée funéraire, comme ça, où il parle avec moi en me disant, mais comment ça se fait que on est là? Mais ah ouais, je suis mort, c'est vrai. Enfin bon, voilà, une espèce de truc comme ça. Et ça, c'est, tu vois, ça, c'est, ça réveille de l'émotion quand je raconte ça. Et en fait, c'est voilà, c'est deux séquences où on voit mon frère vivant. Mais toute la manière dont je raconte le reste de l'histoire, si tu veux, c'est comme si ça faisait tout le temps vibrer ces séquences-là. Tu vois?
Oui.
Voilà.
Oui, de réussir à les amener un peu puis à les amplifier
Voilà, c'est
au bout du
ça.
compte.
Alors donner une vibration permanente, c'est comme les bols tibétains, là.
Oui.
À un moment,
En fait, ils
ça
sont exacerbés par le drame au bout du
c'est
compte, par
ça.
la douleur, par la
Voilà.
peine, puis
Ouais.
par la sincérité avec laquelle tu nous les partages. Alors, ben, en fait, je pense que. En fait, j'espère sincèrement que ceux qui n'ont pas lu l'album au terme de notre discussion vont aller le lire. Personnellement, j'ai trouvé l'album absolument superbe et sincèrement, tout ce que tu dis de venir nous toucher et le reste, c'est là, c'est vrai et ça résonne. Mais ce n'est pas un album qu'on lit dans la douleur et ça, c'est important de
Voilà,
le
c'est
dire.
ça.
Dans le fond, on pleure, on est ému, mais on ne le vit pas dans la douleur, le
C'est
petit frère.
important de dire ça parce que je rencontre régulièrement des gens qui me disent j'ai pas osé acheter votre album parce que j'ai peur que ça soit trop difficile, etc., etc. Mais en fait, les témoignages que j'ai, notamment de gens qui ont vécu cette expérience-là, tous les témoignages, ça c'est vraiment une unanimité, de ceux qui l'ont lu, ils me disent tous. Ça m'a fait du bien. J'ai pleuré, ça a été, hein, mais ça m'a fait du bien. Et je crois que ce qui fait du bien, en l'occurrence, c'est de voir qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Je sais que mon bouquin, il est en France en ce moment, je ne suis pas au Québec, mais en France, je sais qu'il est dans plusieurs associations qui travaillent sur le deuil. Il est là, les gens le lisent, ils partagent autour de ça, parce que, en fait, une expérience comme ça, ben, tant qu'on ne l'a pas vécu, on pense que ça arrive qu'aux autres. Quand on le vit, on pense que ça n'arrive qu'à nous. Et en fait, c'est intéressant de voir que c'est ni l'un ni l'autre, quoi. Que finalement, il y a des gens à qui c'est arrivé, que ça peut nous arriver à nous, mais qu'on n'est pas seul dans cette histoire-là. Et voilà, et que finalement, on vit la même chose. Quoi.
Oh ben, Jean-Louis Tripp, merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup, Raymond.
Et je rappelle, Le Petit Frère donc, de Jean-Louis Tripp, c'est disponible chez Casterman depuis un certain temps déjà. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. Alors, je souhaite une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine.